donc il faut le monter un petit peu. Bonjour à tous ceux que je n'ai pas encore dit bonjour. Merci pour tout ce qui a été dit avant et qui ne fait qu'ouvrir la voie à ce que j'ai eu sur le cœur de partager ce matin. Je voudrais qu'on prie avant. Seigneur, merci pour tout ce que tu transmets dans les cœurs de partager. Merci pour ta parole. Merci pour la vérité qui est dans ta parole. Car il n'y a qu'une seule vérité et elle est en toi. Et c'est vrai que c'est toi qui es notre modèle. Et tout doit venir de toi, tout doit couler de toi, Seigneur. Donne-nous d'être attentifs, de ne pas être des auditeurs oublieux, mais vraiment d'écouter, de garder ta parole, de la repasser dans notre cœur. Merci Seigneur pour tout ce que tu as à nous dire. Amen. Voilà, donc on était en vacances, comme peut-être certains d'entre vous. Nous, on ne s'en rend pas compte, parce que quand on rentre, on ne sait pas trop ceux qui étaient absents. Et puis, en fait, on est parti en vacances, on est parti une petite semaine d'abord près de Bordeaux, dans la famille, chez qui Timothée avait été logé quand il a fait son stage. Et ensuite, on est redescendu 1200 km plus bas, en Espagne, au soleil. On aime aller chercher le soleil. Et là-bas, on est sûr de l'avoir. Ce qui n'est pas le cas d'ici, visiblement. Voilà, et puis en fait, donc on est parti. Et puis au début de notre séjour en Espagne, il m'est venu l'idée, bonne ou mauvaise, hein, je ne sais pas, de regarder dans les papiers, parce qu'en fait, on voulait aller passer la soirée au balcon de l'Europe, comme c'est un endroit qu'on aime vraiment bien, où on aime beaucoup aller, à Nerja, c'est une très belle ville dans le sud de l'Espagne. Et je voulais pas m'enquiquiner à trinque-baller ma sacoche, hein, mon sac. Je voulais juste prendre les papiers de la voiture et les mettre dans ma poche, les avoir contre moi. Et puis quand j'ai voulu prendre les papiers de la voiture dans le sac, vous imaginez, en voyant ma tête, ils n'étaient pas là. Les papiers de la voiture n'étaient pas là. Et quand je dis les papiers de la voiture, c'est la carte grise de la voiture, c'est mon permis, c'est celui d'Isabelle. C'est la carte grise aussi d'une remorque qu'on a, mais bon, qu'on n'avait pas avec nous. Donc ça, dans la court terme, c'était pas gênant. Mais on se retrouvait à l'étranger, sans permis de conduire, sans carte grise. Vous imaginez, on était quand même dans de beaux draps. Hein. Bon, j'avais quand même ma pièce d'identité, ma carte d'identité. Mais ben évidemment, on a cherché, mais je me suis dit, c'est presque pas la peine de chercher où on était en Espagne, ça ne pouvait pas être là. Soit on nous l'avait volé, soit c'était à la maison. Mais alors, pour une raison que j'ignorais complètement, parce qu'on est extrêmement rigoureux là-dessus, les papiers sont toujours à leur place, ne sont pas dans la même poche que les moyens de paiement, et ça ne peut pas être sorti accidentellement. Alors, j'avais un souvenir que pour le feu d'artifice à Hasbrouck, je les avais mis dans mon manteau pour justement, pour la même raison, ne pas prendre les papiers et limiter le risque de vol. Vous savez, quand on côtoie une grande foule, fouiller dans un sac, ça va vite. Bon, dans une poche qui est contre soi, on le sent quand même mieux. Vous savez, on était à 2000 km de la maison, j'allais pas faire l'aller-retour pour aller vérifier. Hein. Et voilà. Alors, on était quand même dans de beaux draps. Bon, même si c'est pas la première fois qu'on va en Espagne, on n'a jamais été contrôlé. Alors, j'avais deux solutions. Soit je me disais, moi, supposer qu'on ne sera pas contrôlé, mais la police espagnole est quand même sacrément présente à beaucoup d'endroits. Les ronds-points, ils font des contrôles, même s'ils nous ont toujours laissé passer. On n'a pas une tête à être contrôlé, visiblement, mais on ne sait jamais. Et déjà, on ne s'est pas affolé, et ça, c'est bien. C'est un signe qu'on a fait des progrès par rapport à notre confiance au Seigneur. Avant, vraiment, on aurait été démis, démontés, ça aurait gâché une grosse partie de notre séjour. Mais là, on s'est dit, bon, Seigneur, il va arranger ça. Et puis, je suis allé à la police. Je leur ai dit, écoutez, ils savaient à peine l'anglais, moi, je ne sais pas du tout l'espagnol, mais j'avais pris mon sac avec et en faisant des gestes, j'ai pu leur expliquer, avec eux, ils comprenaient quelques mots d'anglais. Et en fait, j'ai fait une ils ont compris que je voulais faire une déclaration de perte ou de vol de papier de la voiture. Et donc, ils m'ont donné un papier. Et ce papier, ben, si j'étais contrôlé, je n'avais qu'à le montrer. Voilà, j'ai perdu mes papiers. Je suis allé le dire à la police. Et puis, j'étais couvert. Et puis, on a passé le reste de notre séjour, c'est-à-dire la plupart de notre séjour, sereinement. On est rentré sereinement. Et les papiers, ben, on les a retrouvés. Ils étaient dans mon manteau depuis le 13 juillet au soir. C'est Isabelle qui les a trouvés le soir. On est rentré. Elle m'a dit, voilà les papiers. Je vous assure, j'étais quand même bien content quand elle me les a sortis. Hein. Et voilà. Mais moi, en fait, je m'en étais tellement déchargé que, en rentrant, c'est même pas la première chose que j'ai pensé à faire quand, en rentrant, quoi. C'est pas la première chose que j'ai pensé à faire pour aller voir tout de suite où ils étaient. Bon, tout ça pour vous dire que, ben, moi, ça m'a fait penser à une chose. C'est que, on a tous peur d'être contrôlés vis-à-vis de notre vie. Parce qu'on est tous coupables devant Dieu. Vous êtes d'accord? Et il y a eu du sang qui a été posé sur les linteaux de notre maison, le sang de Jésus, qui a été posé sur notre cœur. Et vous savez, le papier que je devais présenter en cas de contrôle, ben, ça peut symboliser le sang de Jésus qui a montré à l'accusateur. C'est vrai, je suis pécheur, mais voilà, l'acte qui me condamnait, il a été cloué à la croix. Maintenant, je présente ça. Ça, c'est la carte, le papier, le certificat de la grâce. Dieu m'a fait grâce. Je suis contrôlé, mais je ne suis pas coupable parce que Dieu m'a pardonné. Et pendant toutes les vacances, c'est quelque chose qui m'a suivi, la grâce de Dieu. Reposer, dépendre exclusivement de sa grâce. Et c'est ce dont nous allons nous entretenir ce matin. C'est ce que j'ai reçu sur le cœur et qu'on va partager ensemble, la grâce que le Seigneur nous a faite. Et je vais commencer par un tout premier verset que Jésus a lu. Un jour, au début, on lui a remis le livre, un livre, le livre d'Ésaïe. Et Jésus, il a lu un extrait bien ciblé, volontairement. On lui a remis le livre du prophète Ésaïe, c'est dans Luc 4, verset 18. Et là, Jésus, ben, il l'a déroulé et il savait très bien ce qu'il devait y lire. Il connaissait toutes les Écritures. Elles viennent de lui. Et il a lu « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. » Figurez-vous que si on va voir dans le texte original, il s'est arrêté à une virgule. Ce n'était pas la fin d'une phrase, mais il s'est arrêté là parce qu'on était arrivé à ce moment-là dans l'histoire. C'était une année de grâce parce que ce qui suit, c'est un jour de vengeance. Mais on n'est pas encore dans ce jour de vengeance. On est dans l'année de grâce. Et aujourd'hui, nous sommes encore dans cette année de grâce qui dure encore. Et c'est bon à savoir pour nous. Nous jouissons encore aujourd'hui de la grâce. Et on va parcourir ensemble, avec plaisir j'espère, beaucoup d'aspects de la grâce. Et on va la confronter à cette culture qui est malheureusement souvent en nous, qui est issue du monde dans lequel on vit et qui obéit à une logique qui lui est radicalement opposée. Et on va voir, on va creuser et j'espère qu'on va en tirer des enseignements personnels pour nous aider à tourner vraiment les yeux vers Dieu et bénéficier pleinement de sa grâce. Vous savez, la grâce, on sait tous ce mot, hein. On le connaît tous, on sait ce que ça veut dire, mais est-ce qu'on l'a réalisé vraiment au fond de notre cœur, au fond de notre vie? Alors on va parcourir, comme je l'ai dit. Dieu, par sa grâce, s'écrit dans toute la Bible, Dieu est amour. Il nous aime. Et s'il nous a fait grâce, c'est parce qu'il nous aime. C'est écrit « Dieu est amour ». Ça veut dire que Dieu, ben c'est la même chose que l'amour. Tout en lui, c'est de l'amour. Pas comme nous, hein. Tout ce qui est en Dieu, c'est rempli d'amour envers nous, qui sommes ses créatures. Dans 1 Jean 4,8, c'est écrit « Dieu est amour ». On peut aller le lire. 1 Jean chapitre 4, verset 8. Je vais commencer au verset 7. « Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu, et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. » Tout ce qui est en Dieu n'est rien d'autre que de l'amour envers nous. Tout ce qu'il fait dans notre vie est issu de l'amour qu'il déploie envers nous. Et on verra tout à l'heure que ce soit ce que nous jugeons bon comme ce que nous jugeons mauvais. Parce que tout ce que Dieu nous donne, nous le donne parce qu'il le juge bon pour nous. Et c'est quelque chose qui manifeste son amour dans toute sa grandeur et dans toute sa profondeur. Dans 1 Jean, juste quelques pages avant, 1 Jean chapitre 3, verset 1, « Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. » Et nous le sommes. C'est pas une blague. C'est pas une utopie, c'est pas quelque chose, c'est pas une hypothèse. Nous le sommes. Vous savez, ce verset, pour moi, il a une grande importance. Quand j'étais enfant, chez mes parents, on ne fréquentait pas une église, c'était une petite église maison qui tournait plus ou moins bien. Mais tour à tour, on devait apporter un peu une prédication. Quand on avait atteint un certain âge, mon père exigeait, c'est plus ou moins bien, que on fasse un partage. Et puis, ce jour-là, c'était mon tour. Et manque de bol, il n'y a rien qui allait. On s'était chamaillé, les caractères, c'était l'horreur. Mais n'empêche qu'il fallait que je partage quelque chose. Et il n'était pas question pour moi de faire semblant. J'ai jamais su faire semblant. On ne peut pas être chrétien et faire semblant de l'être. Ça ne va pas, ça ne colle pas. Moi, j'avais pris ce verset que je connaissais. Et je l'avais lu en pleurant toutes les larmes de mon corps. Et j'avais dit, voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. C'était une catastrophe. Ça n'allait pas du tout. Et pourtant, Dieu nous avait appelés enfants de Dieu. On l'était autant à ce moment-là que quelques jours avant ou quelques heures avant où ça allait. Dieu nous aime tellement qu'on est toujours ses enfants, qu'on soit de bonne humeur ou qu'on soit de mauvaise humeur, on est ses enfants. Et il nous aime exactement de la même façon, parce que son amour ne dépend pas de notre comportement. Et ça, ça doit être ancré dans le profond de notre cœur. Il nous aime toujours de la même façon. C'est pour ça que j'ai prié de cette façon tout à l'heure dans le chant. Il ne change pas. Nous, on change. Il y a des jours, on se lève du pied gauche et on a un sale caractère, on est horrible. Dieu, lui, déjà, il ne dort ni ne sommeille, celui qui veille sur nous, celui qui veille sur Israël et donc sur nous. Il ne dort ni ne sommeille, mais il est toujours exactement le même. Il n'y a en lui aucune ombre de variation. Il est toujours égal à lui-même. Il ne va pas nous aimer plus demain, ni encore plus après-demain, parce que son curseur d'amour, il est au maximum depuis le début de notre vie jusqu'à la fin de notre vie. Son curseur, il est à fond. Il est déjà à 100%. Il ne peut pas être plus haut. Nous, on a cette idée. On le dit dans un couple, je t'aime plus qu'hier et moins que demain. Mais Jésus, non, il nous aime au maximum aujourd'hui et demain, il nous aimera encore au maximum. Parce qu'il ne peut pas nous aimer plus que le maximum. C'est déjà à fond, c'est déjà rempli. C'est déjà plein d'amour débordant pour nous. On peut ouvrir une parenthèse. Qu'en dit-il de nous ? Ressemblons-nous à ce Dieu qui nous aime de cette façon-là ? L'amour que je viens de décrire, que j'essaye de décrire, est-ce que nous, on a le même envers nos proches, envers nos frères, nos sœurs ? Ça nous remet sacrément en question. On sait bien dur d'aimer comme Dieu aime. Il faut l'avouer. Et pourtant, Dieu nous appelle à lui ressembler. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Il pourrait avoir honte, mais il n'a pas honte. Nous sommes enfants de Dieu. Donc, cette grâce dont nous bénéficions, elle coule de l'amour de Dieu. Mais dans tout cet amour, il y a aussi le fait que Dieu donne, Dieu aime, Dieu donne. Et tout à l'heure, Janet a cité un verset dans Matthieu 7. Si donc, méchant... non, c'était pas Janet, c'était... Pardon. Arlette. Oui, si donc, méchant comme vous l'êtes, on va aller le lire, dans Matthieu 7... Je tourne mes pages aussi, comme ça vous avez le temps de tourner les vôtres. Matthieu 7, 11. Si donc, méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père, qui est dans les cieux, vous donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent ? Vous savez, nous, parents, on aime nos enfants et on leur donne ce que nous jugeons bon pour eux. Et pourtant, Dieu nous qualifie de méchants parce que on n'est pas bon comme lui. Mais nos enfants, je pense qu'ils apprécient ce qu'on leur donne. J'espère. Mais Dieu a plus forte raison. Lui qui est bon et qui est rempli d'amour, il ne nous donne que des bonnes choses. Dieu aime, Dieu donne. Et il y a un autre verset, on ne va pas le lire parce qu'il y aurait une foule de versets à les lire. Il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. On a besoin de la pluie, je ne sais pas si on n'en manque pas, on a besoin du soleil. Ben Dieu donne tout ça gratuitement à tout le monde. Il ne retire pas les nuages juste sur les bons et envoyer la pluie sur les mauvais. Non, il dispense, il donne sans compter. Quel que soit ce que les hommes font, il donne. Par le biais de la nature, il donne toute cette richesse. Les champs des mauvais agriculteurs et les champs des bons agriculteurs produisent du fruit. Toute cette mécanique, ces lois naturelles que Dieu a instaurées, elles fonctionnent autant pour les bons que pour les mauvais. Dieu a instauré par le biais de son amour que ça doit donner, parce que Dieu aime et Dieu donne, sans compter. Il a donné sa vie, sans compter. Il n'a pas donné seulement pour une petite partie. Il a donné pour tout le monde. et ne la prennent que ceux qui le veulent. Mais tout le monde peut avoir part. Je vais continuer. Dans cet amour, dans cette grâce, Dieu pardonne. Il donne, il pardonne. Par exemple, à la femme, dans Luc 7, 48, à la femme qui lui a lavé les pieds, Jésus va dire « Tes péchés sont pardonnés ». Vous imaginez quand Jésus prononce cette parole, elle entend ça, « Tes péchés sont pardonnés ». Un jour, il nous l'a dit à nous aussi, hein. Et il nous le redit, « Tes péchés sont pardonnés ». Quel soulagement peut découler de cette simple parole. On se sent condamné, on se sent lourd, triste. Et Jésus te dit, et il te le redit ce matin, tes péchés sont pardonnés parce qu'il t'aime. C'est pas comme nous. Hein. Ah non, tu vas me le payer. Je t'assure ce que tu m'as fait. Man, je vais te traîner par terre. Mais Jésus, lui, tes péchés sont pardonnés. Il ne fonctionne pas comme nous. Nous, on ne fonctionne pas comme lui. Ça n'a rien à voir. La logique du monde et la logique de Dieu, elles sont radicalement opposées. Est-ce que nous, on pardonne comme Dieu pardonne? Tout à l'heure, on l'a entendu, hein. Dieu nous fait grâce, mais il attend de nous que nous fassions grâce aussi. Si on bénéficie de sa grâce, alors les autres aussi doivent bénéficier de cette même grâce. Au point que Jésus a dit dans la prière d'exemple qu'il a donnée, pardonne mes offenses comme moi aussi je pardonne à ceux qui m'ont offensé. Et Dieu donne gratuitement. Mais quand on a reçu de lui, Dieu s'attend à ce que on perpétue cet amour divin, cette grâce. Et il faut que cette grâce coule de nous comme elle a coulé en nous de la part de Dieu. D'ailleurs, dans Éphésiens 4, 32, ce n'est pas pour rien que c'est écrit. On va aller le lire. Éphésiens 4, 32. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. La grâce dont on a bénéficié, dont on bénéficie de façon permanente, il faut qu'elle coule en nous. Et au sein de l'Église, au sein de la famille, au sein du peuple de Dieu, cette grâce, cet amour, cette bonté, elle doit couler. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. C'est beaucoup de choses hein, dans un même verset. Beaucoup de mots qui ont un sens profond d'amour et de grâce. Dans sa grâce, enfin, on pourrait continuer longtemps, ben Dieu guérit. On connaît tous des gens malades autour de nous. On en lit beaucoup de récits de gens malades dans la Bible. et Dieu leur a fait grâce. Ils ont été guéris. Et vous connaissez tous l'histoire des 10 lépreux qui ont été guéris. Et puis il y en a, je ne sais pas aller chercher, mais peut-être un seul qui est revenu en arrière pour venir remercier Jésus. Les autres, je pense qu'ils sont restés guéris quand même. Parce que Dieu donne. Nous, on aurait peut-être eu envie de dire, oh, purée, la lèpre, elle va leur retomber dessus, ça leur apprendra. Mais non, Jésus, il donne. Il donne sans compter. Il a donné. Mais nous, parce que c'est un peu intéressant de comparer, quand on prie pour quelqu'un, pour qu'il guérisse, est-ce que quelquefois, quelque part dans notre tête, on ne met pas des conditions ? Oh, il faudrait quand même que ça se soit meilleur en lui, puis peut-être que le Seigneur il pourrait le guérir. Il faudrait peut-être qu'il change encore. Peut-être qu'il n'a pas assez de foi. Oh, c'est pas un assez bon chrétien, il faut encore. Vous croyez que Jésus, il met des conditions ? Il donne. Il donne. Et il donne encore. Et il donne sans condition. On va continuer encore. Dieu ne condamne pas. Dans sa grâce et dans son amour immense, il ne condamne pas. Je vais juste prendre un exemple qui est hyper connu. Dans Jean 8, 11, la femme adultère. Hein, wow, selon la loi, il faut la lapider. Et Jésus restait silencieux, bien calme, imperturbable, rempli d'amour et de pardon. Il a juste dit, bon ben allez, celui qui est le premier qui est sans péché, qu'il jette la pierre en premier. La porte était ouverte. Et la conscience a fonctionné. Et un par un, ils sont partis, depuis le plus âgé jusqu'au plus jeune. Et à la fin, Jésus était seul avec cette femme et lui a dit, alors, ceux qui te condamnaient, où sont-ils ? Il n'était plus là. Personne ne l'avait condamné, cette dame. Et Jésus lui a dit, je ne te condamne pas non plus. Vous vous rendez compte, elle s'attendait à être lapidée, hein ? Elle avait dû se préparer à mourir sous des jets de pierre. Vous imaginez la mort que c'est ? Et Jésus, à la fin, lui dit, « Je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. Je ne te condamne pas non plus. » Même Jésus, le Fils de Dieu, n'a pas condamné cette femme. Et ce matin, si tu te sens coupable dans ton cœur, sache bien une chose. Jésus, ce matin, te rappelle cette phrase. Je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. Jésus va te donner le moyen. Si tu acceptes sa grâce, si tu te laisses transformer par lui, il va te donner le moyen de ne plus pécher, de ne plus refaire la même chose. Jésus ne te condamne pas non plus. C'est quand même une sacrée nouvelle, vous ne trouvez pas ? C'est admirable. Dans un monde qui condamne, qui fait tout payer cher, où il faut tout mériter, où il faut se battre pour avoir une place, tout est difficile, où tout est dur, où dès le plus jeune âge, il faut être le meilleur. On a cette bonne nouvelle. Jésus donne gratuitement. Jésus te dit, je ne te condamne pas non plus. T'as beau être nul, t'as beau être mauvais, Jésus ne te condamne pas. Il te donne sa grâce. Il te la donne sans aucune condition. Il te la donne complètement, gratuitement. Ah, moi, ça me fait sacrément réfléchir quand je considère cette grâce qu'on ne peut pas mesurer, cet amour qu'on ne peut pas mesurer, qui est l'amour de Dieu envers nous. Est-ce que nous sommes dans cette logique divine? Parce que ça, c'est la logique divine. Maintenant, on va ouvrir un volet. Notre logique humaine à nous, qui, vous le devinez, hein, elle n'est pas comme ça. Hein. On le sait. On le voit encore un peu au quotidien, mais ça devrait s'effacer. Ça devrait. Ça s'efface. Ça diminue. Ça doit être englouti par cette nature de Dieu qui doit germer en nous, qui doit pousser en nous et qui doit couler de nous. Cette grâce qui doit couler. Réfléchissons un peu aux biens que nous possédons. Nous avons tous des biens, plus ou moins. Nous sommes plus ou moins riches. Nous avons plus ou moins d'âge. Mais les biens que nous possédons, la maison que nous avons, la voiture que nous avons, est-ce que nous sommes conscients que ce sont des choses que Dieu nous a données, qu'il peut nous reprendre, comme il l'a fait avec Job, mais il nous les a données. Est-ce que nous les apprécions comme étant des choses qui ont été données par Dieu et pas comme des choses que nous avons méritées? Trop souvent, on a le sentiment en nous que ce qu'on l'a, purée, on a bossé pour l'avoir. On a suffisamment trimé et c'est normal qu'on l'ait gagné. Ça, c'est la logique du monde. La logique de Dieu, c'est oui, Dieu nous l'a donné. C'est vrai, on a travaillé pour l'avoir. Mais on aurait très bien pu travailler aussi et ne rien avoir. Il y aurait pu y avoir des circonstances fâcheuses qui nous auraient fait tout perdre. Et si on l'a, c'est parce que Dieu a voulu que nous l'ayons, pas parce qu'on l'a mérité. Nous, on a une maison, on a une voiture, on a des enfants, et je suis heureux de les avoir. Et c'est un don de Dieu. C'est quelque chose que Dieu a choisi de nous donner, et ça doit produire de la joie et de la reconnaissance dans notre cœur, parce que c'est un don de Dieu. Et pour chaque chose que nous possédons, nous devons dire merci Seigneur. C'est un don de toi. Et en aucun cas, on ne doit se dire « c'est une bénédiction parce que je suis un bon chrétien ». C'est une bénédiction parce que je suis fidèle à l'Église, je suis fidèle aux réunions, parce que je suis mieux que lui ou qu'elle, parce que là on ressemble à un certain pharisien, vous connaissez l'histoire. Je suis mieux que ce publicain là, je jeûne 3 fois la semaine, moi je. Puis lui, Non, ce que je possède, je ne le possède pas par mes mérites, je le possède parce que Dieu m'a fait grâce, parce que Dieu m'aime, parce qu'il donne, parce que c'est un Dieu d'amour, et il nous donne. Vous savez, si on n'entre pas dans cette logique de croire que Dieu donne gratuitement, que tout ce qu'on possède, on le possède parce qu'il nous aime et qu'il nous le donne, alors on pourrait quelquefois lui faire des reproches. Si on n'a pas compris qu'il donne de façon indépendante de nos mérites, on pourrait de temps en temps lui faire des reproches à ce même Seigneur. « Seigneur, quand même, tu vois bien comment je suis fidèle. Je te prie tous les jours, je lis ma Bible tous les jours, tu pourrais quand même faire un effort et me donner ci ou me donner ça. Non ? Il n'y a pas quelquefois cette logique qui vient en nous ? Oh Seigneur, quand même, hein. Pourquoi lui tu donnes ça, puis moi, ben, y a rien. Et pourtant, je ne suis pas plus mauvais, hein. Ben non, ça n'a rien à voir. Si on pense ça, et quelque part, hein, je vois des sourires sur les lèvres, si je le dis, c'est parce que, ben oui, ça traverse notre esprit. Et c'est vrai. Cette logique qui est purement charnelle et humaine, elle doit nous quitter. Mais on ne peut pas se battre contre elle et essayer de la chasser, on n'y arrivera pas. Elle va partir, sortir de nous, si on se laisse remplir par la grâce et l'amour divin. Ça ne peut pas être arraché de nous comme ça. Ça va sortir de nous si on se laisse remplir par Dieu. Et si on arrête de se laisser remplir par Dieu, cette même logique va revenir en nous. Parce que c'est dans nos fibres humaines, dans notre chair humaine. Et il faut qu'on se laisse vraiment remplir par cette grâce divine, par cet amour divin, cette connaissance de Dieu, sa présence en nous. Et si elle coule en nous, alors il n'y a plus de place pour le reste. Et c'est dans ce sens-là que ça doit se passer. On ne peut pas imiter, faire des efforts par nous-mêmes, essayer ci, essayer ça avec nos propres forces, parce qu'on n'y arrivera pas. Un léopard ne peut pas effacer ses taches. On le chantait au club d'été, hein, on peut se laver et faire tout ce qu'on veut. On ne peut pas laver l'intérieur. On a beau essayer, on ne peut pas y arriver. Ça vient d'en haut. C'est Dieu qui va le faire en nous, qui va faire couler sa grâce. Et si tout ça, ça coule en nous, alors le reste va s'effacer, va partir, va être déraciné, va mourir. Et c'est ça, hein, devenir chrétien. Ça n'est rien d'autre que ça. C'est pas faire des efforts pour venir à l'église. On ne devient pas chrétien en venant régulièrement, en faisant semblant, en fréquentant des chrétiens, on est tous d'accord. On ne devient pas chrétien en essayant d'imiter des chrétiens. C'est de l'imitation. On devient chrétien en recevant cette grâce de Dieu qui doit couler en nous. Et tout le reste va suivre. Vous savez, personnellement, avant de bénéficier de la grâce de Dieu dans ma vie par rapport à la guérison, j'étais malade, mais bien avant, quand j'étais jeune, oh, j'étais un chrétien vaillant et fier de marcher pour Dieu. Et quelque part en moi, bah ouais, je ne peux que l'avouer, j'étais conscient que j'étais debout, je tenais, mais c'était parce que je marchais pour Dieu. Quelque part, c'était mon mérite personnel. Depuis ma plus tendre enfance, je connaissais le Seigneur et j'étais vaillant, j'avais de la force, je marchais pour Dieu jusqu'au jour où je me suis trouvé laminé, écrasé, fatigué, déprimé. Il ne restait plus rien de moi. J'étais au fond du gouffre. Et là, j'ai bénéficié de la grâce de Dieu. Il m'a guéri. J'en ai déjà parlé, hein. D'une maladie incurable. La médecine ne pouvait juste essayer d'apaiser les douleurs. Mais j'étais voué à finir courbé, peut-être dans une chaise roulante, avec du mal à respirer, tellement tout était ankylosé, mes côtes étaient tout était rouillé. Et Dieu m'a guéri. Depuis, je me suis relevé. Mais aujourd'hui, je marche, je cours, je roule, je nage. Je suis plein d'énergie. Mais ce n'est pas par mes propres forces. Je sais que j'ai bénéficié de la grâce de Dieu. Ce n'est pas mon mérite. Je ne comprends pas, il m'a guéri. Parce qu'il m'aime. C'est sa grâce. Et Chaque jour, je lui dis merci. Vous savez, là, on était en vacances. J'aime beaucoup quand il y a plein de soleil, quand il fait chaud, faire du sport. Je suis un peu fou, mais j'aime beaucoup. Et avec Rachel, on a fait de la marche, on a remonté le Chillar. Vous savez, c'est une rivière en Espagne qui coule, qui coule d'une montagne. Ça fait des années qu'on veut trouver la source et elle est à des kilomètres là-haut. Et cette année, on a voulu aller encore plus loin que d'habitude. On a marché sur une journée, on a fait 9h30 de marche. 9h30, hors pause, hein, bien sûr, hein, vraiment 9h30 de marche. Et on voulait aller le plus loin possible. On a escaladé des rochers. Et c'est 9h30, les pieds dans l'eau. Hein. Il n'y a pas de chemin, on marche dans la rivière. Mais de l'eau magnifique, des paysages superbes. On monte dans la montagne et c'est vraiment la nature sauvage. Et c'est super. On a marché 5 heures. Et puis bon, on savait qu'on ne pouvait pas marcher plus parce qu'après, il fallait rentrer. Il fallait quand même qu'on puisse prévoir le rentrer. Et à l'avenir, si on veut aller plus loin, il faudra prévoir un bivouac, monter tout ce qu'il faut pour dormir sur place, pour aller encore plus loin. Mais c'est vraiment un endroit qui est magnifique. Mais à chaque pas, dans toute l'énergie qu'il fallait déployer sous la chaleur, je disais merci Seigneur pour la santé que tu m'as donnée. Merci pour la force que tu m'as donnée. Et à 46 ans, j'arrive encore à user mes ados. Et je suis vraiment heureux. Et ce n'est pas par mon mérite personnel. Je dis merci Seigneur pour la grâce que tu m'as faite, pour la santé que tu m'as donnée. Et le lendemain, un tour à vélo avec Timothée, ben je pouvais encore rouler, qu'il me disait « Papa, relève le pied, j'arrive pas à suivre ». Et je suis vraiment content de voir que j'ai bénéficié de la grâce du Seigneur. Il m'a guéri et parce qu'il m'aime. Ce n'est pas parce que je suis meilleur qu'un autre. On ne comprend pas. Dieu, il y en a qui sont malades. Il y en a qui sont guéris à plus ou moins longue échéance. Mais bon, moi, j'ai tourné en rond pendant plus de 10 ans. Hein. Dieu m'a appris à lui dire merci. Et je pense que c'est ce que je devais apprendre. J'ai dû apprendre à comprendre que tout ce que Dieu donne, c'est pour notre bien. Qu'on le juge bon ou qu'on le juge mauvais, ça c'est notre jugement personnel. Mais ce que Dieu donne est toujours bon pour nous. Qu'on le juge bon ou qu'on le juge pas bon. Alors on doit lui dire merci en toute chose. D'ailleurs, c'est écrit dans la Bible, hein. C'est pas moi qui l'invente. Soyez reconnaissants en toute chose. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas ce que Dieu nous donne, c'est parce que nous, on n'a pas les bonnes lunettes. Tout ce qu'il nous donne, c'est bon pour nous. Et quand j'ai enfin compris cette chose, la guérison a commencé. Le processus de guérison a commencé en moi. La grâce de Dieu, dans sa grâce, tout ce qu'il nous donne, c'est pour notre bien. Toute chose, c'est un verset que José aime bien, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et aujourd'hui, je tiens debout. Ce n'est pas par mon mérite. Ce n'est pas parce que je suis chrétien que j'ai donné mon cœur jeune au Seigneur. Ce n'est pas parce que ci ou parce que ça. Je tiens debout parce que Dieu m'aime et qu'il m'a fait grâce. Je voudrais terminer par les valeurs que nous transmettons à nos enfants. Vous savez, on vient de parler de la logique divine, de la logique humaine. Est-ce que quelquefois, dans les valeurs qu'on transmet à nos enfants, est-ce qu'on ne leur transmet pas un modèle quelque part un peu hybride entre les deux du modèle divin? Du genre, j'explique, ben, si tu veux que le Seigneur il te bénisse, il faut faire ci, il faut faire ça. Non? On n'a pas tendance à le faire, à développer cette idée que Bah, il faut la mériter un peu, la grâce du Seigneur. Est-ce qu'on leur apprend cet amour et cette grâce dans toute sa pureté? Dieu t'aime exactement comme tu es. À nous, c'est vrai, dans nos enfants, il y a des choses qu'on aime bien, des choses qu'on n'aime pas. Mais Dieu les aime exactement comme ils sont, avec leurs défauts, avec ce qu'on n'aime pas. Et nous, on devrait leur transmettre cet amour pur, complet, que Dieu a pour eux. Parce que quelque part, on est le modèle de Dieu pour eux. On devrait l'être. On doit l'être. Est-ce qu'on les aime? Est-ce qu'on leur transmet cet amour qui ne dépend pas de ce qu'ils font, de ce qu'ils sont, de leur caractère, de ce qu'ils ont fait? Hein? Ça nous remet en question. Hein? Est-ce qu'on leur transmet cet amour véritable du Père qui aime ses créatures? Parce que nous sommes ses créatures et Dieu nous aime de tout son amour, quel que soit ce qu'on fait. Et nos enfants, ça doit être la même chose. On doit leur transmettre ce modèle d'amour. Et c'est pas toujours facile. Il faut le confesser. Mais tendons vers ça. Essayons. Laissons-nous remplir. Je dis essayons, c'est une erreur. Laissons-nous remplir par Dieu. Et plus on se laisse remplir par Dieu, plus cet amour va couler de nous et plus ils verront Dieu en nous. Et plus ils mesureront cet amour que Dieu a pour eux. Alors en conclusion, parce que je ne pensais pas mettre autant de temps, soyons remplis de cette grâce de Dieu. Soyons remplis de son amour, de sa présence dans nos cœurs, pour que ça coule et pour qu'on soit capable de faire grâce aux autres. On ne doit pas faire des efforts pour faire grâce aux autres. Parce que si on fait des efforts, alors cette grâce ne va pas être la grâce divine. Cette grâce qu'on doit faire aux autres, elle doit venir en nous de la part de Dieu. On doit la laisser couler en nous de la part de Dieu. Et là, elle va couler de nous sur les autres. Alors, on va garder ça, faire repasser tout ça dans nos cœurs. Et il faut qu'on reçoive nous-mêmes complètement cette grâce. Et je pense que c'est un processus qui peut durer toute une vie. Mais il faut qu'on se mette vraiment sous la grâce de Dieu, prendre conscience que ça doit couler d'en haut. Il nous aime. Il nous aime. Et on peut être sûr qu'il nous aimera encore demain. Tu te sens coupable, tu te dis « Oh, mais j'ai fait ci, j'ai fait ça. » Dis-toi que Dieu t'aime et qu'il te pardonne. Et ce matin, il te dit « Va. Je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. » Tu peux devenir un enfant de Dieu. Si tu ne l'es pas encore, tu peux le devenir en mettant simplement en pratique, en recevant de Dieu ce que j'ai essayé de dire ce matin avec mes mots. Si tu reçois cette grâce de Dieu, alors tu peux naître de nouveau. C'est ça, se convertir. C'est recevoir cette grâce de Dieu. T'occupe pas du reste. Dieu va le faire en toi. Parce que si tu essayes de le faire toi-même, ça va être de l'imitation. Laisse Dieu le faire dans ton cœur. Amen. Seigneur.